J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous ce matin. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je vous salue de la part de La Rochette, transmets leurs salutations. Et vous vous souvenez peut-être que j'avais apporté un message le 25 juin de l'année passée, les mois passent vite, et je vous avais apporté un message, j'avais eu à cœur de préparer un message pour vous sur le livre de Ruth. Et je vais continuer dans ce livre pour ce matin. Peut-être préciser, ça n'a pas une immense importance, mais peut-être quand même pour quelques-uns. Parfois on se dit, on invite quelqu'un, puis il va prendre un message quelque part dans tous les messages qu'il a apportés. Et puis voilà, ça ne lui demande pas trop de travail. Alors la question n'est pas tant le travail, mais les messages que j'ai apportés et que je vous apporte sont les premiers de cette série. Je ne les ai pas apportés ailleurs, je les ai préparés pour vous. Donc je voulais juste quand même vous le dire. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce qu'elle est fraîche, elle est tout à nouveau nouvelle. C'est un effort de notre part parce que souvent nous sommes dans des textes que nous avons déjà lus, déjà entendus. Et pourtant, Seigneur, tu parles. Tu es un Dieu vivant, tu nous le dis. Et Seigneur, nous voulons vraiment le croire. Que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, nous faire du bien. Que tu puisses, Seigneur, nous encourager, nous te le demandons en Christ. Amen. Nous avions donc lu le premier chapitre de ce livre extraordinaire de Ruth. Nous allons aujourd'hui prendre le temps de lire le deuxième chapitre. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Or, Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin, jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est arrêtée qu'un court moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. » « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas comme l'une de tes servantes. » Verset 14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirez même pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire aucun reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Mais où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé ?»« Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, » dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, » lui dit encore Naomi. « Il est un de ceux qui a droit de rachat sur nous. » Ruth la Moabite ajouta, « Il m'a dit aussi, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser les épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Lors du premier message, donc du 25 juin, nous avions vu qu'une famille d'Israël décide de quitter le pays pour aller dans le pays de Moab. Alors qu'ils avaient connu la misère et la famine en Israël, alors qu'ils se déplacent en Moab dans cette espérance de trouver une vie meilleure, les voilà touchés de plein fouet par le deuil. Le mari Elimelech meurt, puis les deux fils, à leur tour, meurent également. Autrement dit, seule Naomi survit. Le mariage de ces deux garçons lui avait donné deux gentilles belles-filles, Orpa et Ruth. Cependant, trois femmes veuves à cette époque-là, c'était l'une des pires situations que l'on puisse connaître. Dans le premier message, nous avons vu Elimelech prendre une décision. Il a décidé de quitter son pays, de quitter son peuple, de quitter ses racines, de quitter sans doute aussi quelque part son Dieu. Il voulait autre chose. Peut-être était-il un homme déçu. Et puis, il tente sa chance. Il tente sa chance ailleurs et il tente sa chance, on peut le dire, tout seul, sans Dieu. Après trois deuils successifs, c'est au tour de Naomi, la veuve, de prendre une décision grave. Elle annonce à ses deux belles-filles qu'elle va rentrer au pays, qu'elle va rentrer en Israël. Orpa finit par céder parce qu'elle essaye de les décourager, de leur dire « Ne venez pas avec moi, rentrez, retournez chez vous, retournez à la maison. » Orpa accepte. Ruth, pas du tout. Elle lui dit « Je ne te quitterai jamais. » Et nous avions vu dans la conclusion que nous vivons parfois des circonstances difficiles parce que la vie n'est jamais si facile que ça, mais il y a un immense encouragement à garder confiance. Nous avions vu que nous doutons parfois, il est normal de douter, et parfois nous sommes même tentés de nous éloigner de Dieu. Il n'est jamais trop tard, revenons toujours tout à nouveau au Seigneur, il va toujours nous offrir un accueil. Nous avions vu aussi que nous prenons parfois de mauvaises décisions. Ça peut nous arriver de nous tromper. Eh bien, n'accusons pas les autres. On voit Naomi qui se responsabilise et qui n'accuse pas son mari de faim, pas du tout. Elle prend les choses comme elles sont et elle va de l'avant, elle prend des décisions à son tour. Dieu, nous avions vu, se sert ici d'une famille qui, au départ, est bien faible. Même extrêmement faible, même dans sa foi. Et pourtant, le livre de Ruth est un livre justement vraiment extraordinaire. Nous arrivons au premier point que j'ai intitulé « L'écoute ». Ainsi, cette femme se sépare de son passé. Elle se sépare de toutes les influences qui ont fait, qui ont construit son identité, qui ont fait d'elle la femme qu'elle est. Et elle déclare indirectement, donc je parle là non pas de Naomi, mais de Ruth, qui quitte tout, eh bien, elle déclare indirectement qu'elle ne veut plus de la vie qu'elle a. Elle déclare qu'elle aimerait autre chose, qu'elle a soif d'autre chose, quelque part qu'elle a soif de mieux. En tout cas, on peut l'imaginer. Et j'avais dit dans mon premier message, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu voir chez sa belle-mère au travers de la tragédie qu'elle vit pour être tellement accrochée à elle et dire, je ne t'abandonnerai jamais, je te suivrai toute ma vie. Elle a vu au travers des épreuves de Naomi quelque chose qu'elle n'avait pas. Je vois pas sinon pourquoi elle l'aurait suivi. Et souvenons-nous de ce dialogue extraordinaire au chapitre 1, verset 17. « Non, Naomi, ne me pousse pas davantage à te laisser, où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et que l'Éternel me traite avec la plus grande rigueur si autre chose que la mort me sépare de toi. » Et je l'avais dit, la rigueur de Dieu, on peut dire qu'elle l'avait vue. Elle fait cette alliance. Ça me surprend personnellement énormément, parce qu'elle fait cette alliance sans espérance, sans aucun espoir d'obtenir une promesse ou une bénédiction, puisqu'elle est étrangère au peuple d'Israël. Et elle le sait. Les seuls éléments qu'elle écoute, et elle est vraiment dans l'écoute, et c'est impressionnant, elle écoute son cœur et je crois qu'elle écoute son intuition intérieure spirituelle. Ruth perçoit et sent quelque chose d'invisible et d'inexplicable chez sa belle-mère. Et comme je l'ai dit, c'est inexplicable et c'est invisible, Ruth, elle aimerait le posséder, elle aimerait l'avoir. À vue humaine, et sans doute que son entourage, alors c'est bien chargé de le lui dire, à vue humaine, elle était folle. À vue humaine, suivre Naomi, c'était se tirer une balle dans le pied, comme on dit. C'est une sorte de suicide. C'est étonnant. Je trouve extrêmement étonnant. Parce que bien souvent, bien finalement, si on réalise bien, l'être humain, qui, comme on le dit, a la tête sur les épaules, aurait écouté l'entourage. C'est clair. Parce que nous avons tendance à faire ce que l'on pense, parce que si on ne le pensait pas, puis si on ne le faisait pas, c'est qu'on ne serait pas du tout convaincu, et nous avons tendance à aimer faire ce qu'on voit de nos yeux. Ainsi, notre instinct, notre logique naturelle, eh bien, très souvent, nous commande de rester plutôt en Moab que de dire « je quitte tout », et oui, je vais vers Bethléem, je vais vers la vie, je vais vers la paix, je vais vers autre chose. Tous les jours, nous sommes défiés dans notre écoute spirituelle. Tous les jours, nous sommes défiés dans notre écoute de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour ma part, je trouve que c'est toujours un défi, même en étant pasteur. Au verset 1, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme riche et puissant, nous dit le texte, du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Je me suis posé une question en préparant ce message. Comment se fait-il que Boaz ne soit pas intervenu avant alors qu'Elimelech était vivant et le décourage lui dire « mais pars pas en Moab, reste en Israël ». C'est ici que potentiellement tu pourras être béni de Dieu. Non, nous ne le savons pas, mais visiblement il ne s'est rien passé dans ce sens-là. Les versets 6 et 7 nous indiquent que nous rencontrons une femme très travailleuse dans Ruth. Et même le chef des moissonneurs a été impressionné puisqu'il en témoigne à son patron. Comme quoi il n'y a pas que les Suisses qui ont la réputation de bosser. Et c'est beau, cette femme était vraiment une femme très persévérante. Ruth, très vite, a des initiatives. Verset 3, elle lui dit, « Mais laisse-moi aller ramasser des épis. » Et Naomi lui dit, « Ben, vas-y, va, ma fille. » Et voilà que Ruth, et on peut le dire par les hasards de Dieu, va se retrouver à glaner dans le seul champ d'orge où miraculeusement, mais elle ne pouvait pas le savoir, où miraculeusement elle avait un rendez-vous divin, un rendez-vous très particulier. Ce jour-là, verset 4, Boaz pourrait dire un peu comme par hasard, mais on sait que c'est pas du hasard. Eh ben, Boaz fait un petit détour dans les cultures, les siennes, et sans doute qu'il avait plusieurs champs, puisqu'on nous dit que c'était un homme puissant et riche. Et là, eh bien, il fait une rencontre. Verset 5, il fait des salutations d'usage, qui sont très belles d'ailleurs. Il est béni, il bénit, il aperçoit cette jeune femme qui travaille. Elle est moabite. Elle a demandé la permission. La permission lui a été accordée par le responsable. Or, eh bien, Ruth, sans doute qu'elle le sait, mais elle est en danger, c'est une femme. Mais c'est une femme aussi qui n'a aucun droit. C'est une femme qui n'a aucune protection. Elle est une proie facile, Ruth. Et Boaz en a conscience. Le texte nous l'indique, parce que très vite il intervient, et par une parole, une courte parole, il établit un mur de protection autour de Ruth. Cette étrangère qu'il ne connaît pas, en quelques secondes, il lui délivre au fond un droit d'existence et il lui délivre, eh bien, un droit à la subsistance. C'est extraordinaire. Et ceci, sans pour autant l'emprisonner. Il ne fait pas sous condition. Il le fait, c'est tout. Et c'est vrai que Boaz est aussi un homme extraordinaire. C'est une offre gratuite que Ruth reçoit. « Écoute, ma fille », les versets 8 et 10 nous le disent. Ce mot « écoute » a un sens très profond et très profond aussi dans le domaine de la Bible. Dans l'Ancien Testament, ce mot « écoute » fait référence, vous vous en souvenez, à cette fameuse parole de Moïse adressée au peuple d'Israël dans Deutéronome 6, alors qu'ils avaient refusé de suivre Dieu, alors qu'ils avaient passé 40 ans dans le désert à tourner en rond. Moïse leur dit, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur, tu l'aimeras de toute ton âme et tu l'aimeras de toute ta force. Écoute. » Et Dieu nous dit toujours tout à nouveau, « Écoute. » C'est tellement important. Que l'écoute de Dieu. Boaz, dans ce sens-là, entre dans le rôle que Dieu aimerait jouer pour nous aussi. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Avant même de parler à cette femme, et c'est quelque chose d'extraordinaire, bien Boaz avait pris des dispositions donner des ordres au verset 9, mais aussi au verset 15, pour une protection. Et si nous réfléchissons bien, on se rend compte que Jésus aussi a posé des paroles en vue de notre protection ici-bas. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et combien de paroles ont été données? Personne ne les ravira de ma main. On se rend pas compte à quel point nous sommes protégés parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes protégés du monde invisible, malveillant. Nous arrivons au deuxième point. J'ai intitulé la bénédiction. Boaz lui répondit, « J'ai appris tes œuvres, j'ai appris aussi tes renoncements, ton engagement, mais aussi j'ai appris ton histoire, ton dénuement. Je vois ta foi. » Ta détermination, ta confiance, ta loyauté. J'ai appris en très peu de temps beaucoup de choses sur toi. C'est un petit peu ce que Boaz veut dire à Ruth. Et ces paroles confirment que Ruth a quelque chose aussi de puissant sur sa vie. J'ai appris tout cela et moi je te dis, et ce n'est pas rien, Et c'est Bose qui le lui dit, « À mes yeux, tu as beaucoup de valeur. Tu as beau être une Moabite, une étrangère, une veuve, à mes yeux, tu as beaucoup de valeur. » Et Bose dépose à nouveau dans le cœur de cette femme une parole qui relève, et nous avons besoin de paroles qui nous relèvent quand nous sommes découragés. Il dépose dans sa vie une parole qui la rétablit, qui honore ce qu'elle fait, sa persévérance, son travail. Et Christ cherche à nous honorer toujours tout à nouveau, à nous relever dans les difficultés. Je relis les versets 12 et 13. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Ruth ne nie pas sa souffrance. Tu m'as consolé, tu as parlé à mon cœur. Et on voit cette femme qui devait effectivement être dans une souffrance terrible, tellement d'inconnus, tellement de peur, imaginons tous ces besoins fondamentaux qu'elle avait. Et Dieu, au travers de Bose, va la rejoindre. C'est quelque chose vraiment de tellement encourageant. C'est ici, comme je l'ai dit, un accueil inconditionnel. Il est celui de Jésus. Jésus ne pose pas des conditions à nos vies. Il nous dit de croire en lui. Et c'est au départ, c'est dans cette foi qu'à un certain moment, bien sûr, il y a des changements. Devant le Seigneur Jésus, si nous lui présentons même une toute petite foi, si nous lui présentons un peu de persévérance, si nous le mettons à l'honneur, il valorise cela, il s'en réjouit, et il s'en réjouit d'une manière inimaginable. C'est toute la parabole de la brebis perdue. Sur 99 qu'il a encore, il va chercher la dernière, celle qui est perdue. Comme Ruth, ne restons jamais les bras croisés. Il y a mieux à faire et à vivre, saisissant les opportunités pour aller de l'avant, ayant le courage de la vie, le courage de l'audace aussi, et comme Ruth, le courage de l'inconnu. Et troisième point et dernier, c'est l'espérance. Ruth termine sa journée, elle rentre, toute reconnaissante, et cette fois toute encouragée. Ça fait des années sans doute, je dis bien des années et des années, qu'elle n'avait pas vécu une journée aussi extraordinaire. Je ne sais pas si on arrive à ressentir ça. On peut être parfois dans des moments où on vit des choses difficiles, mais ces moments qui durent, qui durent, qui durent. Et tout à coup, on entre dans quelque chose où on sent une bénédiction, on sent un changement. C'est quelque chose de tellement beau. Comme évoqué dans l'introduction, sa vie était pratiquement finie avant l'âge. Son destin était tout tracé, une ligne bien tortueuse. Elle était destinée finalement à la misère et à la mort. Le diable cherche à détruire l'œuvre de Dieu, nous le savons. Ce n'est pas juste une théorie chrétienne, c'est une réalité. Dieu a un ennemi et nous avons un ennemi parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et le diable cherche à nous décourager, mais il cherche aussi à détruire nos vies. Il cherche à nous tirer dans les méandres de l'insignifiance. Il cherche à nous tirer dans le découragement, dans la mort. Et nous sommes invités à ne pas écouter la voix du diable. J'entendais encore dernièrement quelqu'un qui me disait, mais j'ai souvent des insomnies et c'est toujours parce que j'ai des pensées qui reviennent avec les soucis qui reviennent constamment. Et c'est un combat pour cette personne. Et je prie avec cette personne pour que petit à petit elle puisse être victorieuse sur ces nuits où je crois le diable cherche à vraiment la décourager. Nous avons un ami caché, nous le savons, mais ce n'est pas seulement une théorie. Un ami inespéré en Jésus qui ne nous juge pas, qui ne nous repousse pas, comme Boaz n'a pas repoussé Ruth, mais qui nous aime et qui a posé un sceau sur nous, de manière à ce que personne, le diable lui-même, ne puisse pas nous faire du mal. Les amis, je sais que la vie est difficile, la vie n'est pas simple. Et si elle était facile, ce serait peut-être le plus grand drame de notre vie, parce que si la vie était facile, eh bien nous n'aurions pas besoin de Dieu. Et ça, ça fait réfléchir. Hier, je suis allé en randonnée, je fais passablement de montagne, et puis j'ai un groupe de randonnée à La Rochette, et nous sommes allés faire donc ce qu'on appelle la peau de phoque, la randonnée. Je m'attendais pas trop aux conditions qu'on a rencontrées. La neige, de par la pluie, était extrêmement dure, mais tellement dure, c'était du vrai béton. Et alors que j'ai choisi une course vraiment facile, accessible, il y avait 3 personnes nouvelles qui venaient, dont je sais pas trop leur niveau, j'avais volontairement choisi une course vraiment facile, il y en a 3 qui ont glissé sur des plaques de glace. Et j'ai dit, mais Seigneur, merci de nous avoir protégés. Parce que ça aurait pu être dangereux, alors que c'était une course où en principe il n'y a pas de danger. Mais de par le fait que la neige était du vrai béton, là c'était devenu dangereux. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu dans des choses qui nous paraissent parfois banales, des choses que nous avons faites. C'est une course que j'ai faite, je ne vais peut-être pas dire des dizaines de fois, mais 10 fois en tout cas, sans doute plus. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Et c'est vrai que nous avons une soif, nous avons un souvenir d'éternité. Nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Ruth n'était pas faite pour vivre ce qu'elle a vécu. Naomi non plus. Le deuil, quand il est là, nous ne sommes pas faits pour la mort. Nous sommes faits pour l'éternité, nous sommes faits pour être aux côtés du Seigneur. Et il nous prépare une place. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il nous aide dans la vie tous les jours. Quand nous vivons la solitude, quand nous vivons le mépris, oui, le Seigneur est là, parce que le Christ habite en nous, que nous puissions toujours tout à nouveau le croire. Je vois le champ de Boaz un peu comme l'Église. Je le vois et je la vois comme un lieu de protection, l'Église. Et j'aime vous voir ici, dans votre Église. L'Église est un lieu d'échange. L'Église est un lieu de fraternité, de solidarité. À La Rochette, j'entends des gens qui sont tellement heureux de leur Église et j'entends des gens qui font que de râler. Il y en a aussi chez nous. Et sans se rendre compte, ils la maudissent. Et sans se rendre compte, ils se font du mal. Parce que l'Église, elle est imparfaite, ils nous apprennent rien du tout quand ils critiquent. On le sait qu'on est imparfait. Et puis que l'Église est imparfaite. Mais le Seigneur aime son Église. Et malgré nos faiblesses en Église, eh bien l'Église est un lieu extraordinaire de protection, de solidarité, de fraternité, d'échange. L'Église à la fois faible, à la fois méprisable, oui peut-être, mais elle est tellement belle aux yeux de Dieu. Et nous sommes appelés à nous offrir cette dimension de miséricorde et non pas de jugement. Et les amis, bien, avant ma conclusion, j'aimerais vraiment vous bénir et bénir votre église de la chapelle d'Espoir. J'aime beaucoup votre petite chapelle, j'aime beaucoup votre communauté. J'aimerais que vous puissiez vraiment retrouver toute l'espérance dont nous avons besoin, un renouveau dont nous avons tous besoin dans les églises. Nous sommes fragiles, mais par le Christ en même temps nous sommes forts. Le monde nous méprise et pourtant il y a une puissance de par l'Esprit au milieu de nous qui est extraordinaire et vraiment je vous bénis, vraiment abondamment. J'arrive à ma conclusion, dernière image, excusez c'est souvent de la montagne, mais je fais pas de bateau donc j'ai un peu de peine à photographier les bateaux, j'espère que vous aimez la montagne. Ruth, en accompagnant Naomi, eh bien renonce à beaucoup de choses. Il lui aurait été plus facile sans doute de rester en Moab. Et naturellement, nous avons cette tendance dans nos vies à pas bouger, à se dire, mais ne sachant pas trop ce qui m'attendrait si je fais ça, même si ça va pas, je préfère rester où je suis. Au moins, je vais pas vivre pire. Mais parfois, on peut vivre mieux quand même. Et Ruth a fait ce choix. Elle a pris le risque de dire, moi, je veux vivre autre chose. et elle a tout quitté. Boaz pose un interdit autour de Ruth, une parole de protection. Christ a posé déjà sur chacune de nos vies une parole de protection, c'est certain. Personne ne pourra vous ravir de ma main. C'est extraordinaire. Boaz perçoit Ruth comme une femme de grande valeur. Eh bien, aux yeux de Christ, nous avons toutes et tous beaucoup de valeur, et même beaucoup plus que ce que nous, nous considérons avoir comme valeur. Parce que souvent, on se dit, je suis pas grand-chose. Et pourtant, oui, aux yeux de Dieu, on est beaucoup. Ruth fait sa part. On voit que c'est une femme persévérante, c'est une femme travailleuse. Elle ne reste pas les bras croisés. Avec le peu de moyens qu'on a, suivant nos circonstances, mais marchons, œuvrons, même si ça nous paraît bien peu de choses. Le peu qu'on peut faire, il faut le faire. La multiplication des pains, je vous le rappelle, part sur la base d'un enfant qui débarque, puis au fond, qu'a rien. C'est ridicule ce qu'il a. Mais Jésus l'utilise. Donc, avec le peu que nous avons, faisons quelque chose pour Dieu et pour les autres. Christ est avec nous. Il ne nous condamne pas comme Boaz a été aux côtés de Ruth et ne l'a pas condamné. C'est un immense encouragement. Dieu nous accompagne. Il nous prépare une place parce que, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Nous ne sommes pas faits non plus pour vivre en Moab. Bethléem, si nous réfléchissons bien, ça commence ici-bas. Ça commence peut-être même ce matin pour certains. Trois dimensions ressortent dans ce texte. Je commence d'abord sur le plan humain, dans ces quelques personnages du chapitre 2. D'abord, il y a une dimension de foi. Il y a une dimension de discernement. Et puis, il y a une dimension de fidélité. Et puis, du côté de Dieu, c'est le grand invisible, puis en même temps, c'est le grand présent. Eh bien, chez lui, trois dimensions aussi, il y en aurait d'autres, mais on voit qu'il y a sa présence, il y a sa conduite, et il y a sa bonté. Alors que nous puissions être encouragés, Dieu ne nous abandonne pas, au contraire, il est là, et que nous puissions continuer à poursuivre dans nos églises, dans nos vies personnelles, en restant encouragés. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, nous voulons te remercier parce que tu es là. C'est vrai que nous ne te voyons pas, nous vivons des circonstances parfois inattendues. Hier, j'ai été surpris de ce que j'ai trouvé en montagne. Ça n'a pas été simple, mais tu as été là, tu as permis des difficultés, en même temps tu as protégé. Et qu'il en soit ainsi dans nos vies, Seigneur. Tu permets des difficultés, mais en même temps, tu nous protèges, tu nous gardes. Et Seigneur, bien comme pour Ruth, dans notre faiblesse, dans nos vies où des fois, Seigneur, c'est pas évident que nous puissions lever nos yeux vers toi, porter un regard, Seigneur, vers toi, et croire que tu ne nous abandonneras jamais, et que dans toutes circonstances, il y aura toujours, Seigneur, quelque chose qui va s'ouvrir en direction du ciel. Merci pour notre foi, renforce-la, et que nous puissions être des témoins, Seigneur, qui te font plaisir, qui t'honorent, et qui te bénissent journellement, non pas au travers de la critique ou de l'amertume, mais au contraire, au travers de la reconnaissance, de la joie, et Seigneur, de la bonté. Merci pour qui tu es pour nous, et merci pour qui nous sommes pour toi. Sois béni en toutes choses. Amen. Voilà, soyez bénis, je le répète. Merci beaucoup.